Ce sera plus une démarche méthodologique qu'érudite, mais que je me permettrai. Il ne s'agit pas de voir toute l'Antiquité païenne en quelques minutes, en élucidant avec un regard chrétien tous les problèmes qu'elle pose, bien évidemment, mais de proposer quelques lignes directrices et quelques, disons, propositions d'orientation intellectuelle. Le premier point, en introduction, que je voudrais proposer, c'est une restriction intellectuelle. On pourrait se demander vraiment pourquoi des regards chrétiens sur l'Antiquité païenne, plus que des regards chrétiens sur la géométrie plane, la physique nucléaire, l'histoire-géographie et la géologie. En ce sens que de deux choses l'une, ou bien l'Antiquité païenne est une matière à part entière, une matière universitaire, objective et scientifique, et par conséquent, il n'y a pas de regard plus chrétien que plus agnostique ou païen, que sais-je, sur cette antiquité. C'est une gageure, en quelque sorte, de vouloir la voir d'une manière spécifique qui serait donc à part dans le domaine universitaire, ou bien au contraire, on peut considérer que le christianisme étant une attitude d'esprit, d'âme, d'intelligence globale, tout peut être regardé avec des regards chrétiens. Et dans les deux cas, on aboutit, me semble-t-il, à une sorte d'impasse et éventuellement à un dialogue de sourds avec une université non chrétienne. Je n'oublie pas que le thème central du colloque, c'est peut-il y avoir une université catholique, une spécificité catholique de la démarche universitaire. Mon propos sera donc double. D'une part, les regards que l'on peut avoir universitairement parlant sur l'antiquité chrétienne, et d'autre part, l'enseignement spécifiquement chrétien qui peut en découler vis-à-vis d'un public de jeunes gens en université laïque comme en université catholique. Ce qui est un double aspect. J'insiste sur ce point, sur lequel je ne reviendrai peut-être pas assez en détail, bien sûr. On peut être un universitaire catholique qui ne dispense pas du tout un enseignement universitaire catholique. On peut être un universitaire agnostique qui dispense, parce qu'il connaît bien le catholicisme, une vision catholique, mais qui ne fait pas sienne de l'Antiquité, des lettres, que sais-je. Donc c'est la validité même de la question que je poserai dans un premier temps. D'abord, quelle antiquité païenne? Je dirais notre antiquité païenne. C'est le premier point sur lequel peut-être on n'insiste pas assez. L'antiquité païenne, l'antiquité gréco-latine, les humanités dont nous parlons avec familiarité, en dernière instance, n'appartiennent qu'à nous, à l'échelle planétaire. L'antiquité de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce, de Rome, de la Grèce surtout, de Rome en dernière instance, avec son débouché, si j'ose dire, historique, qui est l'Église catholique romaine, mais aussi avec les branches, si j'ose dire, séparées de l'orthodoxie. Bref, la civilisation chrétienne dans son ensemble sont à l'embouchure de cet immense fleuve qu'on appelle l'Antiquité païenne et le judéo-christianisme dans le bassin méditerranéen. Et ça ne concerne, si l'on y réfléchit bien, c'est une évidence, mais on n'y réfléchit pas assez souvent, ça ne concerne ni de près ni de loin les trois quarts de la planète, du moins dans un premier temps, dans l'échelle historique ancienne. Ni l'Extrême-Orient et ses civilisations, et ni les Amérindiens et leurs civilisations, ou leur culture si vous préférez. Donc, mon point de départ est objectivement scientifique. L'antiquité païenne du bassin méditerranéen occidental-oriental a réellement, indéniablement, de l'avis de tous, débouché sur la civilisation chrétienne qui a absorbé tout l'héritage qui lui était possible d'absorber. Et en a fait quelque chose de spécifiquement original. Là où commencent à se distinguer les approches d'un universitaire que je postulerais agnostique, laïque, comprenez bien, c'est une formule d'attitude. À la limite, j'appellerais universitaire laïque, voire universitaire agnostique, un croyant qui ne se croira pas autorisé à mettre quelque chose de sa foi dans son enseignement. Donc, prenez le sens agnostique ou laïque en ce sens-là. Bien. Donc, là où nous nous séparerons, universitaire catholique et universitaire laïque, c'est sur le point de savoir, dès le départ, si la culture chrétienne, la civilisation chrétienne est un aboutissement dû au hasard, à la nécessité, ou un aboutissement providentiellement désiré. C'est énorme comme nuance. C'est un abîme, en réalité, dans cette, dans ce postulat de départ. Va-t-on faire toutes les recherches philologiques, intellectuelles, philosophiques, artistiques? Va-t-on lire les tragiques? Va-t-on étudier la grande marée perse déferlant sur la Grèce? Va-t-on étudier l'hellénisation par Alexandre du bassin méditerranéen qui supplante les vieilles rivalités linguistiques, puis la romanisation de cette antiquité grecque pour aboutir historiquement et indéniablement à la christianisation de l'Empire quand notre Seigneur est venu? Va-t-on le voir d'un point de vue, j'allais dire distancié, indifférent, froid? C'est le hasard, ça a marché, le christianisme a marché, il se trouve que ça a fonctionné, mais que ça aurait pu aussi bien ne pas être. Ou bien, va-t-on le voir, en prenant garde à toute tentative, à toute tentation téléologique, bien sûr, va-t-on se dire, démarche de travail, c'était prévu, c'était fait pour. Auquel cas, l'universitaire chrétien se demandera dans toutes ses recherches, et continuellement, j'allais dire consubstantiellement à sa propre pensée, il se demandera sans cesse s'il n'y a pas un cheminement souterrain dans ce qu'il lit, dans ce qu'il étudie, de la providence, éventuellement de la grâce, éventuellement de forme de prophétisme, entre guillemets bien sûr, païen. Il me semble, j'ose le dire, que toute démarche fondée sur la nécessité ou le hasard a quelque chose de sot, j'allais dire d'enfantin, de non-universitaire, de non-objectif, de non-scientifique. Je le dis au nom de la foi, bien sûr, c'est fragile comme point de départ, mais disons qu'il serait facile ensuite, justement, de le démontrer de l'intérieur et non pas de l'extérieur. En ce sens-là, les Japonais, les Incas, les Aztèques, les Chinois sont très peu concernés par notre démarche, sauf lorsqu'à échelle historique, leur propre antiquité, les missionnaires étant venus chez eux, va s'éclairer, elle aussi, dans un plan de conversion de leur culture, de leur intelligence, de leur art, à l'unique but, celui dont parlait Madame Millet-Girard, cet ordonnancement à une cause finale, la catholicisation de l'univers dans ce qu'elle a de plus profond et pas forcément dans la superficialité, si j'ose dire, des formes de la piété qui peuvent être très variables. Donc voilà essentiellement le point de départ de ma réflexion. Les causes efficientes, en bonne scolastique, ce sont celles qui sont habituellement étudiées par les universitaires agnostiques. Telle cause produit tel effet, qui produit tel effet, et au bout, nous avons la civilisation chrétienne. Mais en réalité, dit saint Thomas, la seule cause fondamentalement intéressante, c'est la cause finale. Pourquoi ce petit peuple de Rome a-t-il dû ainsi conquérir le monde, sinon parce que Rome devait un jour être la Rome éternelle? Le simple fait de dire cela vous pose en universitaire chrétien. Le simple fait de se poser la question si l'on peut le dire dans une université laïque est déjà soit un problème. Et de fait, beaucoup ne le diront pas, ça ne se dit pas. Voilà des propos qu'on ne peut pas poser, ex qualité ex cathedra, dans un amphithéâtre d'université laïque, sauf, bien sûr, si l'on prend sur soi d'être plus audacieux que la moyenne, ce qui est très bien, à mon avis. Ce que ne doit pas être un regard chrétien sur l'antiquité païenne, ce qui ne doit pas être, eh bien, il ne doit pas être non scientifique, il doit être scientifique, totalement et intégralement. Donc il ne doit pas être d'abord anachronique. Il ne s'agit en aucune manière de mesurer les valeurs, les grandeurs, les défauts, les manques, les créations d'antiquité païenne à l'aune de nos certitudes et de nos valeurs créées après 2000 ans de christianisation. Et la tentation est facile. La tentation est facile de, j'allais dire méchamment, de bêtifier sur l'antiquité au nom de la foi. Comprenez-moi, les exemples que je vais poser sont des exemples purement méthodologiques. Le daimon de Socrate, le démon de Socrate qui l'avertit de ce qu'il ne doit pas faire, jamais de ce qu'il ne doit faire. Ça devient son ange gardien, automatiquement et simplement. Les psychanalystes ne sont pas plus intelligents qui vous chercheront des explications subconscientes, métaconscientes, et inconscientes et paraconscientes. Je me contente de dire, je n'en sais rien, les anges existent. Pourquoi pas? L'inconscient existe, j'en sais rien. Ça me paraît moins évident que l'existence des anges. Mais posons la question, ne donnons pas la réponse, ne soyons pas pressés. Monsieur Guillotel disait tout à l'heure qu'il faut un travail lent et minutieux, mais bien sûr, ne brûlons pas les étapes. Le daimon de Socrate, point d'interrogation. C'est étonnant. Ce que Socrate en dit est étonnant, mystérieux. La métaphore me semble un peu facile quand même. Je veux dire, interpréter métaphoriquement les choses. Bien, ne christianisons pas excessivement, que sais-je, Sénèque. Sénèque est-il monothéiste? Sénèque croit-il en un Dieu unique et personnel? Le panthéisme est latent chez tous les philosophes monothéisants de l'Antiquité. Christianiser anachroniquement, c'est systématiquement quand on a Othéos, l'Irtéos, le Dieu, Dieu, ça n'a pas grande importance, dira-t-il le traducteur. Si, si, c'est essentiel, disait l'autre traducteur. C'est fondamental. Mais très souvent, la voie nécessaire, c'est celle de l'humilité. Nous n'en savons rien, nous n'en savons pas grand-chose du vécu, si j'ose dire de foi, d'un ancien. Donc, ne pas juger, je répète, ne pas recristianiser l'Antiquité. Deuxième point, ne pas porter substantiellement et essentiellement un jugement moral sur l'Antiquité. Car si nous portons un jugement moral sur l'Antiquité, que reste-t-il de l'Antiquité? Ne nous y trompons pas. Un catholique universitaire, un universitaire catholique n'est pas un bigot universitaire. Il n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Il y a de grandes chances pour que le mal soit 90% de la société antique. Ne nous y trompons pas. Si nous faisons la somme de l'idolâtrie, de la zoolâtrie, des superstitions continuelles, des amulettes que nous découvrons à foison dans tous les sites archéologiques, si nous pesons la fraternité humaine aux critères de l'esclavage, si nous envisageons les combats de gladiateurs auxquels vont les plus sages et les plus philosophes de nos Romains, si nous envisageons l'exposition des enfants en Grèce comme à Rome dès qu'ils embarrassent ou ne sont pas viables, si nous voyons le droit de guerre abominable, abominable, qui est courant, on rase la ville, on tue tous les hommes et on vend les femmes en esclaves, si nous voyons dans un domaine plus subtil et qui a fasciné notre XVIIe siècle français, à mon sens, à tort, et qui a fasciné l'auteur du De Viris, ensuite au siècle suivant, si nous voyons le suicide érigé en vertu suprême, si nous voyons enfin les mœurs honteuses des Grecs, tous en sont. Nous nous rendons compte, ce dont nous ne prenons pas assez conscience, et ce que je n'hésite pas à dire à mes élèves pour qu'ils soient des hellénistes aux yeux grands ouverts, nous prenons conscience que nous ne voudrions avoir pour ami, pour intime, aucun grec ou romain, ou peu s'en faut, aucun. Nous aurions une répulsion telle que nous ne voudrions pas l'avoir à notre table. Et simultanément, et c'est là le paradoxe qu'un chrétien envisage sans crainte, simultanément nous sommes fascinés par eux car nous voyons une grandeur chez eux à nul autre pareil. À nul autre pareil. Grandeur, crime, amoralité et sublimité des exigences de vertu se côtoient d'une manière parfaitement imbriquée. Et il faut retrousser ses manches pour essayer de comprendre ce mystère quand nous savons que le Dieu éternel et tout-puissant a souhaité que cette civilisation donnât le jour plus tard à la civilisation chrétienne. Rappelons-nous, dans les confessions de Saint-Augustin, premier regard sur l'Antiquité chrétienne, celle des pères, rappelons-nous la sévérité vis-à-vis de tout ce qui est mythologie. « Malheur à toi, dit-il dans les confessions, fleuve de la coutume, qui te résistera? Ne m'as-tu pas fait lire que Jupiter est à la fois tenant et adultère? Et certes, ils ne pouvaient être l'un et l'autre en même temps, mais pour autoriser un véritable adultère à l'imiter, on a imaginé ce faux tonnerre. Est-il un maître drapé dans son manteau qui entende sans se scandaliser un homme fait de la même poussière que lui s'écrier « Ce sont là des fictions d'Homère. Il prêtait aux dieux les vices des hommes. J'aurais préféré qu'il nous attribuât les vertus des dieux. » Saint Augustin dit cela, mais Platon dit substantiellement la même chose dans La République, pré-chrétien à sa manière. Dans le livre 2 et 3 de La République, Platon exécute, il n'y a pas d'autre terme, toute la littérature théâtrale et poétique de la tradition en l'expulsant de la cité idéale. Ce ne sont, dit-il, substantiellement, qu'ordure, immoralité, indignité et impiété. Et nous l'étudions et nous l'enseignons ex qualité, ex cathedra à nos élèves, comme un ensemble de merveilles intellectuelles, esthétiques. La première résolution de la question, monsieur l'abbé Bayot l'avait déjà longuement évoquée dans une conférence, cette opposition du monde chrétien du monde païen. La première résolution, je crois, est très simple. Il y a un temps pour tout, l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout, pour chaque chose. Il y avait un temps pour le combat contre le paganisme. Ce temps était celui des pères de l'Église, il fallait qu'il fût livré, sinon le christianisme n'aurait pas triomphé. Il a été livré, le combat a triomphé. Maintenant, avec du recul, avec plus de repos, avec la certitude du vainqueur, nous pouvons plus aisément chercher les merveilles qu'il y a dans cette antiquité. Et il n'y a guère de crainte maintenant de retomber dans l'idolâtrie, du moins dans celle des anciens. J'allais dire dans leurs mœurs douteuses, du moins dans nos milieux. Mais il ne m'essayait pas de prendre régulièrement, et j'avoue que j'y prends un plaisir pervers, un bain de sévérité vis-à-vis de l'Antiquité. C'est un régal de voir la méchanceté de certains pères vis-à-vis de ce qui est notre métier, notre gagne-pain continuel. Ça fait du bien, ça ressource, ça dépoussière le regard. Donc, ce sont les voies de la Providence, me semble-t-il, qu'un chrétien doit s'attacher à voir systématiquement lorsqu'il étudie l'Antiquité classique. Et je dirais les voies de la Providence qui a choisi une société donnée pour ses grandes qualités, peut-être, et ses grands défauts. Les grands défauts, on les a vus, me semble-t-il, ils mettent en évidence historiquement la perfection de la grâce. Si nous avions eu une antiquité sans grand défaut, nous n'aurions pas été sensibles à la révolution prodigieuse des cœurs, des âmes, des institutions civiles et sociales en toutes choses. C'est un acte de gratitude en quelque sorte que nous avons à faire sans arrêt lorsque nous enseignons les textes anciens, de voir comment le bon grain se mêle au bon grain. Deuxièmement, je dirais que dans les qualités, il y a essentiellement des questions. Fort peu de réponses. Et c'est le point que je vais développer plus longuement. Ce que j'admire dans l'Antiquité païenne, ce sont essentiellement les formulations de questions, les interrogations angoissées de toute la philosophie et de toute la littérature. Questions sur Dieu et questions sur l'homme. Sur Dieu, la beauté. Dieu est-il beau? Qu'est-ce que la beauté divine? La réponse toute simple, c'est de dire, voyez la statue grecque, voyez ces Apollons, voyez ces Zeus tonnants, voyez ces Vénus, éventuellement. Oui, mais nous avons aussi le paganisme oriental et ces démons grimaçants qui se veulent divinités. Dieu est-il une face de lumière ou une face de ténèbres qui est là pour nous faire souffrir? Et on entre immédiatement dans le deuxième thème de toute l'Antiquité païenne. Dieu est-il juste? Dieu est-il bon? Euripide, Eschyle posent la question mille fois et y répondent de manière différente. La tentation de croire que le mal, toujours le mal, est la faute de Dieu, est voulu, est permis d'une manière ou d'une autre. Et entre le permis et le voulu, seule la scolastique arrivera à y voir bien clair. L'Orestie, la thématique du père qui doit mourir de la main de la mère qui doit mourir de la main de son fils, et puis la vengeance divine qui lui demande à la fois de faire justice et ensuite d'être puni, alors qu'il n'a fait qu'obéir à ce que les dieux voulaient. C'est monstrueux. C'est encore une chose sur laquelle j'insiste beaucoup auprès de mes élèves. La littérature grecque théâtrale est monstrueuse, abominable. Le sang, la mort, la haine, la violence, l'iniquité sont le pain quotidien de ce théâtre. Et nous savons, nous, me semble-t-il mieux que personne, en tant que chrétiens, que c'est bien là l'image même de la révolte initiale, de la révolte des anges. C'est bien là la trame même du monde. Comment peut-on être méchant à ce point-là? Comment peut-on se révolter ainsi contre la beauté et la vérité? La question est posée par les tragiques. La puissance de Dieu que nous trouvons dans Homère, lorsque Zeus lui-même, dans l'Iliade, prend la balance du destin et voit ce qu'elle va distribuer comme lot aux Troyens et aux Achéens. Il semble bien, dans la pensée homérique, que Zeus est dépassé par le destin. Nous, nous savons qu'il n'y a pas de destin, il y a toute puissance de Dieu et de la Providence. Voilà une interrogation passionnante que nous comprenons mieux qu'ils ne la comprenaient eux-mêmes, en quelque sorte. Beauté de Dieu, unicité de Dieu, qu'est-ce que le polythéisme? Voilà encore des problèmes que nous comprenons mieux, je crois, que quiconque, parce que nous avons tellement réfléchi au cours de 2000 ans au monothéisme, au panthéisme, à travers nos scolastiques. Nous avons tellement réfléchi aux attributs divins que nous en arrivons à des réponses simples, tranchées et disons, sans ambiguïté, là où pour les païens, c'est une gestation continuellement difficile, problématique, et si bien pour ça qu'un Sénèque lui-même, je suppose, n'aurait même pas su dire en quoi il croyait précisément. L'universitaire chrétien évolue donc sur ce premier point de Dieu dans un monde qui lui est totalement familier. Totalement familier. Il nage comme un poisson dans l'eau, dans des problèmes que l'on a pesés, sous-pesés, résolus depuis 2000 années, et que l'agnostique risque d'évacuer d'un retour de main, avec mépris ou goguenardise éventuellement. Sur l'homme, les antiques ont posé les questions mieux que personne, la connaissance de l'homme. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, dit Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous me direz, je ne vois pas en quoi un chrétien peut se sentir concerné par ce type de réflexion, de méditation, car il sait tout, bien sûr qu'il sait tout en un sens. Mais saint Thomas, à la fin de sa vie, est prêt à brûler son œuvre après une vision extatique, parce qu'il prend conscience que ce qu'il a écrit ne pèse rien, en un sens, à côté de l'absolu qu'il a entrevu. Socrate n'aurait absolument pas démenti saint Thomas d'Aquin. Notre connaissance de saint Thomas nous fait comprendre infiniment mieux que si nous étions païens l'aspiration de Socrate et de Platon vers quelque chose qui dépasse les mots, qui dépasse la formulation humaine. L'hubris, la démesure des Grecs, thème passionnant pour un chrétien et passionnant à enseigner à nos élèves dans une perspective chrétienne. L'hubris est le péché absolu pour les anciens, la démesure. Il ne doit pas y avoir de démesure, ni dans la conduite sociale, ni la conduite morale, ni dans la conduite politique. Et pourtant, le christianisme nous a enseigné que l'hubris, la démesure, est la seule mesure qui convienne à l'amour, qui convienne à la foi, qui convienne à l'espérance. Si la mort du Christ n'est pas de l'hubris, qu'est-ce que c'est? Voilà une inversion des perspectives qui est extraordinaire et qui aurait scandalisé un païen. L'après-mort, la mort, qu'y a-t-il au-delà? Question magnifiquement posée par les anciens tout au long de leur œuvre, avec une évolution sensible. Dans le chant 11 de l'Odyssée, Ulysse interroge aux enfers Achille. Jadis, quand tu vivais, dit-il à Achille, nous tous, guerriers d'Argos, t'honorions comme un dieu. En ces lieux aujourd'hui, je te vois sur les morts exercer la puissance. Pour toi, même la mort, Achille, est sans tristesse. Je dis, mais aussitôt, il me dit en réponse, oh, ne me farde pas la mort, mon noble Ulysse. J'aimerais mieux valer de bœufs, vivre en service chez un pauvre fermier qui n'aurait pas grand-chère, que régner sur ses morts, sur tout ce peuple éteint. C'est bouleversant, bouleversant l'idée que peut avoir de l'au-delà un sage des temps anciens de l'Antiquité. C'est le Sheol, en quelque sorte, des Hébreux. À cela, Platon répond quelques siècles plus tard, dans la bouche de Socrate, dans l'Apologie. D'un autre côté, dit-il au juge, si la mort est comme un passage d'ici-bas dans un autre lieu, et s'il est vrai, comme on le dit, que tous les morts y sont réunis, peut-on, juge, imaginer un plus grand bien? Si l'on fait société avec Orphée, Musée, Hésiode et Homère, à quel prix n'achèterez-vous pas ce bonheur? Quant à moi, je consens à mourir plusieurs fois si ces récits sont vrais. Oh, pour moi surtout, quel merveilleux passe-temps que de causer là-bas avec Palamède, Ajax, fils de Télamon et tous les héros des anciens temps qui sont morts victimes d'un jugement injuste. Il y a autant de distance entre Homère et Platon qu'entre Platon et nous-mêmes. Mais Platon est sur notre chemin. Nous avons la réponse, il a la question. Nous avons la tranquillité de la certitude, il a l'angoisse souriante ici de l'interrogation. Ce ne sont que quelques exemples, bien sûr, que j'ai pris à l'instant, qui veulent prouver simplement, rien d'autre, soyons modestes, qui veulent prouver que le christianisme, philosophiquement parlant, peut devenir pour un universitaire un critère, peut devenir une sorte de borne d'ancrage et permettre par un aller-retour continuel de ce que nous savons à ce qu'il se demandait, de mieux comprendre pourquoi il se demandait, comment il se demandait, en quel sens il se demandait, qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Parfois même, on pourra se permettre, pourquoi pas, d'aller dans des intuitions plus grandes des anciens. Dans le mythe de R, le pamphylien, dans la République, lorsqu'après avoir réfléchi sur la société idéalement juste, Platon en vient à mettre en scène le jugement des âmes, il y a des pages saisissantes. Il dit ainsi dans ce livre 10 qu'au sujet des enfants morts, dès leur naissance ou ayant vécu peu de jours, R donnait d'autres détails qui ne valent pas d'être rapportés. Silence, discrétion, tabou, dirons-nous, sur ce point que nous appelons les limbes. D'où tient-il sa science? D'où tient-il cette intuition qui n'est pas juste que les enfants connaissent les souffrances des cercles les plus terribles de l'enfer? Un peu plus loin, il voit les grands criminels, parmi les criminels moins grands, remonter des entrailles de la terre où ils ont été châtiés. Et comme nous étions près de l'ouverture et sur le point de remonter, après avoir subi nos peines, nous aperçûmes soudain cet hardier, un tyran. Avec d'autres, la plupart étaient des tyrans comme lui. Mais il y avait aussi des particuliers qui s'étaient rendus coupables de grands crimes. Ils croyaient pouvoir remonter, mais l'ouverture leur refusa le passage. Et elle mugissait chaque fois que tentait de sortir l'un de ces hommes qui s'était irrémédiablement voué au mal, ou qui n'avait point suffisamment expié. Alors, disait-il, alors, des êtres sauvages, au corps tout embrasé, qui se tenaient près de là, en entendant le mugissement, saisirent les uns et les emmenèrent, quant à Hardier et aux autres, après leur avoir lié les mains, les pieds et la tête, ils les renversèrent, les écorchèrent et les traînèrent au bord du chemin, etc. Un universitaire qui publie chez Garnier Flammarion se doit de mettre des notes universitaires et il vous dira « Ces êtres au corps tout embrasés sont les prototypes des colazontes angeloi de la littérature apocalyptique, les anges du châtiment. » C'est vrai, bien sûr, je ne nierai pas que ce soit un prototype universitairement parlant, mais je voudrais à ce moment-là qu'on m'explique comment les petits-enfants de Fatima connaissaient le prototype des colazontes angeloi dans la vision que la Vierge leur montre de l'enfer et qui est trait pour trait la même. Donc nous sentons par là, sans tomber dans une mystique de mauvais goût, qu'il y a au-delà des temps des rencontres qui ne sont peut-être pas le fait de la pure invention humaine. De la même manière, dans la méditation sur la mort, je montrerai à travers deux pages de Jean Brun ce que peut être vis-à-vis d'élèves, d'étudiants, le caractère éminemment fructueux d'une comparaison du christianisme et de l'Antiquité. Jean Brun parle de la mort de Socrate et de la mort du Christ qui ont été de nombreuses fois comparées. La mort de Socrate est une mort sans agonie. La mort de Jésus est une longue et lente agonie qui commence avec la montée au calvaire. Socrate passe ses derniers moments avec ses amis. Jésus meurt dans les tourments et couvert d'injures. Mais il meurt avec d'autres, voire en communion avec un autre. Il n'y a pas de passion de Socrate. Il y a une passion du Christ. Chez Socrate, la mort est essentiellement pensée. Elle est tragique pour ses amis et non pour lui-même. Socrate dépasse la mort comme événement par l'idée même qu'il a de la mort. Socrate a exorcisé la mort par la philosophie, puisque philosopher, c'est apprendre à mourir. La mort de Jésus est avant tout une passion. Elle est tragiquement vécue. Elle est déchirure suprême. Jésus est malade jusqu'à la mort. La mort de Jésus est une mort sanglante. La mort de Socrate est une mort, pour ainsi dire, sans douleur. Toute la chair de Jésus tressaille sous les clous, sous la couronne d'épines. Il a soif. Jésus n'en finit pas de mourir. Et c'est cela qu'a su rendre le pinceau de Grunewald. Socrate meurt paisiblement, sans qu'aucun de ses traits ne s'altère, sans que sa voix ne change. Jésus qui meurt sonde jusqu'au bout l'épreuve de la déréliction. Et c'est le cri final. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ainsi, Socrate meurt, mais sa mort demeure, pour ainsi dire, à distance de lui-même. Comme le dit Nietzsche, Socrate nous apparaîtra comme le premier qui ait su non seulement vivre, mais qui plus est mourir en conformité avec cet instinct du savoir. C'est pourquoi l'image de Socrate mourant, de l'homme qui, par la sagesse et le raisonnement, s'est affranchi de la crainte de la mort, surmonte comme un écu armorié la porte de la sagesse, et doit rappeler à tout homme que sa destination est de donner à l'existence un sens intelligible, donc une justification. Le Christ, lui, est véritablement possédé par la mort, il vit la mort alors que Socrate la pense. Lequel d'entre nous ne voit à travers une page d'un universitaire qui ne fait pas par ailleurs profession de philosopher chrétiennement l'Antiquité? Elle nous montre d'un point de vue pédagogique qu'en deux pages, on fait totalement comprendre à des étudiants d'un monde chrétien ce qu'est fondamentalement la démarche mourante de Socrate. Je serais bien embarrassé d'expliquer la mort de Socrate aussi bien à des Japonais non chrétiens. Il leur manquerait un point de référence. Donc, j'en viens à mon dernier point. L'universitaire chrétien, s'il le veut, est un homme complet. Il allie en lui la nature et la surnature. Il navigue délibérément et librement dans les deux domaines, dans un aller-retour dialectique où il se sent à l'aise d'égale manière. L'universitaire agnostique, laïque, soit qu'il soit coincé par une neutralité purement juridique, ne pourra pas expliquer, méditer, décortiquer des pages semblables, ou avec mauvaise conscience. Ou s'il a franchi la mauvaise conscience, honneur soit à lui, il prouve déjà qu'il fait œuvre d'universitaire catholique. et non pas de catholique universitaire. Je ferai une réflexion du même ordre dans tout ce qui concerne l'Antiquité païenne, ce que j'appellerais le monde intermédiaire, entre guillemets, sans aucune connotation gnostique, vous pensez bien, entre l'homme et Dieu, les chemins d'accès. L'époque moderne, l'université moderne a bien mieux marqué qu'on ne l'a fait dans les temps anciens, qu'on ne l'a fait au XVIIe ou XVIIIe, faute d'information au reste, l'importance immense des initiations, des religions à mystère, des influences orientales, du pythagorisme, de l'orphisme, de l'influence égyptienne, des ouvrages « maudits » entre guillemets, comme le Satyricon de Pétrone, montrent le monde de superstition, de crainte, d'angoisse perpétuelle dans lequel pouvaient vivre même des hommes de classe sociale élevée dans l'Antiquité. Les oracles sont un problème énorme. C'est postulé simultanément que les supercheries peuvent tenir des siècles, des millénaires, dans la sottise, l'abrutissement complet des prêtres, des politiques, des hommes, des papes. Je sais que, bien sûr, Cicéron a dit que deux augures ne pouvaient pas se regarder sans rire. Mais c'est très tardif déjà. Les oracles prennent des racines très profondes dans le monde méditerranéen. De même, que trouve à dire l'universitaire volontairement ou sciemment laïque en ce qui concerne par exemple ce qu'on a appelé le mystère de la quatrième églogue de Virgile. Bien sûr, lorsque Virgile dit enfin, en 40 avant Jésus-Christ, enfin le dernier âge de la prophétie cumène est arrivé, voici que renaît en son intégrité le grand ordre des siècles, voici que revient la Vierge et qu'une nouvelle génération descend des hauteurs du ciel, daigne seulement, chaste Lucina, aider à la naissance de l'enfant avec laquelle enfin cessera la race de fer et surgira sur le monde entier la race d'or. Car Coppino, dont la foi n'est pas mise en cause bien évidemment, car Coppino, en scientifique, disait: il est évident que cela ne s'applique en aucune manière, ni de près ni de loin, au Christ, mais à la naissance du fils d'Asinius Pollion. Bien sûr, je ne le conteste pas, personne ne le conteste. Le travail scientifique va montrer que Virgile, par cette prophétie, parle d'un événement politique, datable et parfaitement humain. Mais au nom de quoi cela empêcherait-il une vision ultérieure, une vision superposée, comme un double en miroir? Là encore, avec toute la discrétion d'usage et toute la prudence d'usage, le prophétisme n'est pas forcément conscient, voulu par les hommes. Il peut être voulu par Dieu ou par des voies impénétrables de la Providence. Et en ce sens-là, nos universitaires, me semble-t-il, devraient retrouver quelque chose, science en plus, de la démarche des hommes du Moyen-Âge, d'un Dante, de l'auteur du Dies Irae qui mêle la Sibylle aux prophéties vétérotestamentaires, quand il est dit dans Plutarque que sous le règne de Tibère, il est annoncé à un marin égyptien au large des îles Échinades que le grand Pan est mort. Et quand il annonce à son tour que le grand Pan est mort, on entend, dit Plutarque, païen, les gémissements de toute la nature. Bien sûr, nous pouvons chercher dans l'inconscient le subconscient, bien sûr, nous pouvons chercher dans la fiction purement poétique. Mais libre à nous, et très honnêtement, je réponds, je n'en sais rien, je n'en sais strictement rien, libre à nous d'imaginer que quelque chose a voulu être marqué par le Tout-Puissant dans ce monde païen mourant, la fin d'un règne. Donc, je conclus mon propos. Un regard chrétien sur l'Antiquité, à travers les quelques approches que j'ai faites, me paraît non seulement licite et valide, mais me paraît supérieur à un regard qui, par un agnosticisme méthodologique, risque fort soit de goguenarder, d'ironiser sur tout ce qui de près ou de loin sera mystérieux, sera inquiétant, sera inexpliqué, soit, le deuxième point peut-être plus grave encore, un regard qui s'en tiendra à l'esthétisme pur. Il me semble que les humanités, depuis trop longtemps en France, les humanités gréco-romaines, sont vues d'un point de vue purement esthétique. Une sorte d'élégance intellectuelle, la beauté du marbre, la beauté des temples grecs, la beauté du verre, la beauté, et trahissant par là même La vérité antique. Les anciens se posaient des questions, ils ne se posaient pas des questions pour rire, ils avaient une angoisse réelle de la vie, de la mort, de la justice divine, et ils traduisaient cela par toute leur civilisation comme un appel à une réponse qui ne venait pas. Et nous, nous aurions, en quelque sorte, par timidité, par scrupule neutraliste, nous aurions une vision étriquée, formaliste de cette antiquité, en considérant que leurs interrogations, en dernière instance, étaient tout à fait superficielles, formelles, et ne plongeaient pas les racines dans la même crainte qui est la nôtre, celle de la vie et de la mort. En ce sens-là, je conclurai là-dessus, on ne peut pas ne pas être, me semble-t-il, en un certain sens, lorsqu'on est chrétien et qu'on s'intéresse à l'Antiquité, on ne peut pas ne pas être platonicien, par certains côtés. Admirable Socrate, admirable Platon, en quête du beau, du vrai. Tout au long de Admirable Socrate, Platon pose des pages pré-chrétiennes, sans le savoir, bien sûr. Mais pourquoi? Sinon parce que le réel est le réel, et que quand on étudie le réel, on pose des vraies questions. La simple difficulté, c'est que nous n'avons pas les réponses en ce temps-là. Maintenant, nous les avons. Le beau, le bon, le vrai, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la Sainte Trinité. Il est tout de même dommage que des universitaires se privent méthodologiquement de le savoir et de le dire à leurs étudiants, alors que ça les dispensera de tellement d'errements et de tellement de vanité dans leur connaissance.
Je vous remercie infiniment pour cette conférence qui illustre parfaitement le thème de ce colloque. Je crois que vous avez bien raison de dire que, au fond, les catholiques s'intéressent au paganisme parce qu'au fond, ils ne méprisent pas les questions que les païens posaient, et que cet intérêt que nous portons aux questions que les païens ont posées s'explique parce que, justement, nous avons les réponses. Nous cherchons à faire coïncider ces réponses avec des questions que ceux qui les posaient ne pouvaient pas résoudre. Et je crois que c'est une façon d'illustrer, de façon tout à fait remarquable, ce propos donc de Saint-Hilaire que je rappelais dans mon introduction, ma présentation. Si l'on vous entend bien, on comprend ce que Saint-Hilaire dit dans De Trinitate. Il n'y a que les fidèles et les croyants à pouvoir acquérir la doctrine de la science. Dans ce sens-là, oui, c'est tout à fait juste. Et vous avez bien raison aussi, je crois, de dire que les universitaires qui se privent méthodologiquement, j'ai bien aimé cet adverbe, d'affirmer leur foi, se mutilent. Cette automutilation est quelque chose d'atroce. Je vous laisse à vos auditeurs qui certainement voudront vous poser une question. Peut-être vous avez vous posé les bonnes questions et apporté les bonnes solutions, ce qui fait qu'il n'y a plus de questions. Voilà le problème d'un bon exposé comme le vôtre. Madame, le professeur vous les souhaite-t-elle.
Si vous voulez, nous ne dirons pas comme Descartes que nous avançons masqués, mais quand même, il est bon de ne pas livrer la réponse
Nous sommes tout à fait d'accord, madame. Mon propos, ma propre méthodologie mettait cela en tête de ma conférence, parce que, j'allais dire, nous sommes entre nous. Mais il est évident qu'en tant que stratégie, ça vient enfin. Et je dirais même, il y a une tentation inquiétante qui m'a été reprochée plus d'une fois par mes élèves, les anciens et anciens élèves, c'est que, notamment dans l'enseignement des civilisations antiques, en lycée essentiellement, c'est que je les inquiétais. Je les inquiétais en leur posant des questions inquiétantes, d'une manière inquiétante, telle que les anciens s'étaient posées. Ils n'aimaient pas cela. Et généralement, ça se traduisait par l'expression suivante, « Monsieur, vous êtes pessimiste par votre regard sur les choses. Mais que sais-je, Euripide est optimiste, Eschyle est optimiste, Sophocle est optimiste, Platon est optimiste, Platon qui dit que le juste, de toute façon, n'a rien d'autre à attendre des hommes que la persécution et la mort. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, madame, entièrement. Et il faut s'adapter sans cesse à son public, sans compter un élément nouveau et supplémentaire que tout le monde accordera, c'est que l'étudiant d'aujourd'hui n'est plus l'étudiant d'il y a 50 ans, et que la méconnaissance totale du béaba, je ne dis pas même du catéchisme, mais de philosophia perennis, est telle qu'on ne peut même pas être compris dans un premier temps. Comme vous disiez, avancée masquée, non point, ruse du serpent, simplicité de la colombe, nous avons de bons garants de ce point de vue-là.
La pédagogie comme stratégie. Merci infiniment. D'autres questions? Oui, monsieur.
Simplement une remarque. En vous entendant, je pensais à ces auteurs chrétiens de la race latinité, de fresque à Saint-Véron, qui se reprochent à certains moments d'accorder trop d'attention à ces auteurs latins qui les ont formés, quand même, leur style. C'est là qu'ils le tirent. Et ces moines du haut Moyen-Âge que j'ai visés tout à l'heure, plus ou moins gentiment, ils sont quand même des gens qui avaient une formation extraordinaire et qui font passer, sans toujours le vouloir parfaitement, mais dans leur écrit qui est orienté vers Dieu, parce que c'est quand même essentiel, mais une partie du style de Virgile et d'autres, c'est assez extraordinaire de voir comment, au fond, cette latinité est passée au service.
Tout à fait.
De l'Église.
Tout à fait. Et je dirais que le regard chrétien des pères de l'Église est à mettre de côté. On ne demande pas dans une guerre, si vous voulez, les commandos, les parachutistes ne font pas dans la dentelle. C'est autre chose que les signataires d'armistice qui viennent après. Chacun son rôle, chacun. Et par conséquent, effectivement, cette crainte de Saint Jérôme, dont l'abbé Bayot avait d'ailleurs fait justice, c'est celle que je retrouve chez nos universitaires agnostiques, en quelque sorte, c'est la tentation de l'esthétisme. Se dire en dernier instant à quoi ça sert. Saint Jérôme a le sentiment pendant un temps que ça ne sert à rien, mais si, ça va servir en dernière instance à faire ne serait-ce que la langue latine liturgique, qui est une forme de perfection totale, et toute notre beauté. Bon, et vous touchez du doigt un point que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qui est passionnant parce que c'est un mystère total, c'est le pourquoi et le comment de la sélection des œuvres manuscrites copiées et des œuvres manuscrites abandonnées dans le haut Moyen-Âge. Quand nous voyons la bibliothèque de Phocios, quand nous voyons ce qui nous reste, quand nous voyons que ce n'était déjà qu'une partie de ce qui existait avant le 9e, 10e siècle, c'est hallucinant. Dans les Fragmenta Historicorum, les fragments des historiens grecs de Jacobi, il y a 1000 noms d'historiens grecs. On ne peut pas s'empêcher de penser que ce n'est pas au petit bonheur la chance qu'il y a eu cette épuration. À la limite, que savons-nous de l'antiquité réelle? À la limite, nous avons une antiquité, je ne parle pas de l'archéologie, nous avons une antiquité sélectionnée. Et là encore, on se pose la question des voies de la Providence, en dernière instance, pas au départ, c'est prodigieux.
Oui, mais la réponse, c'est la bibliothèque de Vivarium, d'une certaine façon.
Je vous dirai la chose suivante. Je suis fasciné par le fait que nous postulons tous, et ce sera, je vais laisser la parole à M. Navert, parce que sinon, nous postulons tous dans l'université que nous avons les meilleurs. Et ce qui est embêtant, c'est que, de fait, les meilleurs que nous avons conservés, quand ils se citent les uns les autres, citent effectivement ceux qui nous sont conservés. Je veux dire que Aristophane cite de fait Euripide et Sophocle, etc. Et les autres ont l'air d'être tombés d'une manière naturelle, mais ce n'est pas si naturel que cela. Ça n'est pas normal. Les incendies, les destructions de bibliothèques, ça n'explique pas tout, parce qu'un manuscrit recopié subsiste toujours quelque part et ne demande qu'à revivre. S'ils n'ont pas revécu, s'ils n'ont pas été propagés ensuite, c'est que il y a un non possumus. Il y a une exclusion volontaire, mystérieuse. Du moins, c'est une hypothèse de travail. Et que nous pénétrons très mal.
Excusez-moi. Je suis l'abbé Bayou.
Je ne suis pas très sûr que l'incendie de la bibliothèque de l'Alexandrie dans la
Assurément non. Mais statistiquement, j'ai la coquetterie d'aimer la philologie manuscrite, statistiquement, un manuscrit n'est jamais présent en un unique endroit et en un unique exemplaire. Il y en a partout. On peut brûler 1000 bibliothèques. Normalement, un texte est toujours transmis si on le veut. C'est donc que quelque part, comme on dit maintenant, on ne le veut pas. Oui. Tout à fait. Mais le débat reste ouvert et M. Irigoyen, qui est au Collège de France maintenant, dans son cours de philologie manuscrite, a toujours enseigné notre ignorance totale de ces choses. On ne sait pas. Pourquoi? On ne comprend pas.
Oui. Mais je suis davantage sensible à l'hétérogénéité que par pure méthodologie. Vous avez souligné entre le monde ancien et nous. C'est d'ailleurs, je crois, mais j'en parle malheureusement sans avoir vu tout à fait les textes, le thème d'un débat ou d'un colloque qui a eu lieu récemment au moment. Les rapports entre le monde ancien et certains, et je crois que M. Veyne, ont soutenu l'idée que l'exotisme du monde ancien par rapport à nous est absolu et que nous faisons des illusions lorsque nous voyons retrouver un effet de préoccupation dans les anciens. Je crois que c'est un paradoxe insoutenable, mais enfin, il a été soutenu encore récemment et c'était une manière sans doute d'écarter ces comparaisons et ces jonctions tellement que vous faites. Il y a aussi un autre point de vue, vous parliez de la guerre qui était menée par les Perses contre les Maliens, oui, bien sûr, il y a eu les commandos qui ont exécuté sauvagement, et non pas même en littérature, ça a dit ce soir, c'est abominable, au lieu de commencer, c'est vrai, ça a été cassé les statues, c'est un accord de temps.
Mais il y a aussi. Et notre Grégoire de Tours national.
Il y a aussi quand même chez les pères déjà ce souci de joindre tout ce qui était joignable et je crois qu'il y avait dans le monde ancien une forme d'action dans un monde abominable et tragique par rapport auquel le nôtre les voit meilleur de la turpitude humaine. Ils attendaient la réponse, nous l'avons, mais ce n'est pas nous qui la leur apportons, nous sommes chronologiquement privilégiés par rapport à eux, mais si on n'avait pas reçu par un simple mystérieux, le message attend, nous serions dans le même état qu'eux, et peut-être nous ne dirions pas aussi bien. Il y a une formulation d'inquiétude, une angoisse, et la réponse a été apportée par un autre que nous, et nous sommes chargés d'assurer la jonction et la complétude. Et en effet, il n'est pas normal que par une espèce de mutilation intellectuelle, on ignore ce que l'histoire nous révèle avoir été apporté ensuite. Si on tient compte de l'expression d'angoisse païenne, on doit tenir compte aussi avec une même perspective historique et scientifique de la réponse chrétienne qui était apportée ensuite.
Et j'ajouterais finalement que nous avons infiniment moins le sens du sacré que les païens. C'est un constat terrible, terrible.
Je vais passer la parole à M. Lanavert qui conclura cette matinée.